Bien, on peut maintenant intervenir sur initial continu. Sylvie, un tout petit point sur Paris et la relation avec le terrain, de bon, moins bien. Tu es en deux mots.
Paris, c'est une situation très particulière parce qu'il y a superposition entre l'académie et le département lui-même. Donc on a une instance de pilotage qui est tout à fait particulière. Alors, il se trouve que les relations ont été très mauvaises.
Elles s'améliorent.
Oui, je crois qu'elles sont tout à fait... Enfin, depuis deux ans, je pense qu'il y a réellement un travail en commun qui est effectué. Mais je dois dire que cette détérioration des relations qui était largement liée aux politiques, parce que Paris est quand même sous une emprise extrêmement particulière et extrêmement surveillée, ça nous a aussi aidé à progresser. Il y a une diapo que je n'ai pas passée, qui est peut-être celle qui t'aurait intéressée, c'est la manière dont nous avons décrit nos contenus de formation pour les rendre lisibles pour l'inspection académique.
Oui, je pense que ça, c'est un travail d'élucidation qui est très important dans, voilà, dans la gestion.
Et nous sommes maintenant à un point où la préparation du stage T1 se fait exactement en relation. C'est vrai que nous avons deux IEN affectés à l'UFM, qui pour moi sont des formateurs, enfin de mon point de vue à moi, sont des formateurs UFM, de leur, enfin du point
et
de
eux,
vue...
Et eux, ils se sentent aussi du terrain, ils voilà, sont les interfaces.
C'est ça. Et la plupart de nos actions, enfin beaucoup d'actions de formation sont menées, sont co-organisées.
Bien, à vous. Alors, j'ai vu des mains qui se levaient pour intervenir.
Oui, moi je suis bien sûr assez séduit parce que Patrick vient de nous présenter. Et philosophiquement, d'un point de vue de formateur, je n'aurais pas de réserve à m'engager dans une telle proposition de formateur, mais il y a quand même quelques questions qui demeurent quoi, à l'exposition. Moi, j'en vois une qui concerne tout autant, dans des conditions différentes, la formation initiale et la formation continue. La première, c'est la résistance que nous avons, je dis nous parce que je pense personne n'y échappe, à commencer dans une formation à parler de ses propres difficultés. Ce n'est pas la culture de la maison. Ce n'est pas notre pratique personnelle. Cela existe. C'est une culture qui appartient, enfin moi, dans ma propre expérience, qui appartient plutôt au mouvement pédagogique. Ce sont des gens qui s'inscrivent, ceux qui participent à ce stage de formation. En cela, ils peuvent être modélisés et récupérés par l'institution. Moi, j'y vois que des avantages, personnellement. Mais je dirais qu'ils sont volontaires. Donc, je comprends bien que dans l'aspect que nous présente Patrick, cette caractéristique de volontariat, elle est importante. Mais moi, le problème qui demeure, c'est... alors, en formation initiale, c'est... Comment parler des problèmes professionnels? Alors, nous, on a un exemple dans notre académie, ex-Marseille, à l'UFM de Marseille, précisément. Nous, on se centre sur la question du mémoire professionnel. On essaie de faire que le mémoire professionnel, ce soit le moment d'une mise à plat écrite d'un véritable problème professionnel, c'est-à-dire pour échapper aux mémoires bateaux, aux mémoires, comme on peut en lire beaucoup, je dirais qu'ils sont des devoirs ou des pensums, ou au mieux des vulgarisations, et c'est extrêmement difficile à conduire, à accompagner, c'est-à-dire que quand je dis une difficulté à dire, c'est que le stagiaire perçoit même pas, même dans un cadre d'un stage filé, ce qu'on lui demande, il met beaucoup de temps. Donc ça, c'est le premier point,
partir des difficultés.
Voilà, moi,
peut-être
qu'on
pourrait ne pas partir des difficultés. On y reviendra après.
Voilà. Et le second point, c'est celui des tâches alors de bas niveau. Mm-hmm. Moi, je crois que... Enfin, le schéma... On a un formateur... Je ne crois pas au formateur qui peut faire abstraction de ce qu'il a derrière la tête. Moi, j'ai de plus en plus la conviction, par le travail que fait chez nous Frédéric Soja, tu évoquais, que l'enjeu, que ce que nous jouons dans des formes, je dirais, très modestes au plan de la pratique professionnelle, c'est de permettre aux jeunes d'avoir un sentiment d'appartenance à un métier, être du métier, et commencer à avoir du métier. C'est sur ces deux choses-là qu'on joue. Et pour nous, un des points d'ancrage, c'est celui des pratiques de bannière. Alors, par exemple, je donne cet exemple, mais là aussi, on a des incompréhensions. Et c'est le désaccord que j'ai avec cette idée qu'il faudrait partir des demandes, des aspirations. C'est une manière d'emballer les choses. Mais nous, on les met brutalement en première séquence. On leur dit, voilà.
En formation initiale. En
formation initiale. Oui, mais
c'est très
différent. Je me demande quand même, je le trie, mais ça, je n'ai pas d'expérience de D'accord. formation initiale. Donc, je ne vais pas en parler. Je termine là-dessus. Nous, on les met directement. On lui a dit, voilà, il faut que tu fasses une dictée. Il faut que tu fasses un travail de calcul avec ardoise. Faut que tu fasses ou de calcul mental. Faut que tu fasses voilà les tâches, mais vraiment presque emblématiques de l'école.
Ou pour de la vieille eux, école, emblématique de la vieille école.
Moi j'ai dit de l'école, elle demeure. Et je pense qu'il y a un alors j'entendais parler D'accord. de continuum. Je pense qu'il y en a un sur certaines activités. Et ils comprennent pas ce qu'on leur demande. Ils sont un peu désarçonnés. Ils disent, ils ont même pas besoin de faire de fiches de préparation sur des choses comme ça, quoi. Et là, on construit une déstabilisation. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose. Bien sûr qu'il faut aller dans le sens de ce qu'ils cherchent, mais il faut créer quand même un peu, je sais pas, mettre un peu un écart quand même. Il faut un peu secouer les gens, parce que sinon, et c'est ça ma préoccupation, on renvoie à une forme d'individualisation, c'est-à-dire comment on le crée ce collectif de métiers.
Voilà.
C'est ça qui me préoccupe.
Ça, c'est un point important.
C'est bien là, la question.
Attends, tu réponds pas tout de suite, on va laisser les prises de parole de la salle, tu le retiens, tu écris, c'est fait pour ça, sur ton calepin écrit, et puis on répondra tout à la fin, enfin on reprendra la discussion après.
Oui, je suis également très séduite par les propos
de Patrick.
Malheureusement, on n'est pas, en ce qui concerne mon ACAD, on n'est pas encore au pays des bisounours comme là. Alors, deux petites choses.
Tu parles de formation initiale ou de formation continue ?
De formation continue, puisque voilà. Je suis conseillère pédagogique.
Oui.
J'ai pu tester deux formes de formation. Première forme à laquelle on est tous confrontés, on a des stages de 3 semaines à gérer.
Voilà. Et pour les remplacements des PE2.
C'est un incontournable puisque les PE2 partent en stage. Donc on a les enseignants pendant 3 semaines avec des commandes institutionnelles. En l'occurrence, cette année, on en a une sur la grammaire. Et ces stages de 3 semaines sont d'une lourdeur
pour remplir
pour tout le monde. On déploie un maximum de formateurs, premier, second degré, UN. Enfin, c'est un brassage impensable, une déperdition d'énergie aussi motivée que les stagiaires soient, parce qu'ils le sont, d'accord ? Il n'y a pas le côté cahier des charges aller et retour, donc personne ne s'y retrouve, et pour certains, on est vraiment dans une sorte de promenade pédagogique. Et puis, on a pu tester l'année dernière sur la Circo, un stage, on va dire un stage filé, puisque je suis sur un réseau Ambition Réussite, où les instituts de CP du réseau Ambition Réussite sont venus toutes les semaines, un jour par semaine. Alors, c'était exactement le cahier des charges que tu évoquais, c'est-à-dire on est parti des résultats d'évaluation qui étaient catastrophiques sur le CP, et on a bâti le stage avec ses enseignants. Et là, effectivement, j'ai vu la différence entre les passages, entre ce qui se passait quand on était en stage, les retours dans les classes, les remontées de remarques, les difficultés qui s'étaient confrontées. Et pour moi, c'était là vraiment de la véritable formation.
Voilà. Autre intervenant qui voulait donner d'autres éléments de témoignage ou de mise en place de dispositifs. Alors, Patrick et Sylvie.
Alors, les bisounours. C'est pas du tout les bisounours, c'est la guerre. Je vous le dis. Travailler dans un rectorat pour parler de formation, c'est la guerre. Ça veut dire que c'est la guerre. Alors, on aimerait
la bagarre,
que ce soit moins, mais je veux dire qu'il faut sans arrêt avoir une éthique, avoir un objectif et le porter. Et je vais parler sous le contrôle. Il y a une collègue ici qui travaille à l'UFM de Dijon. Je suis persuadé que mes préoccupations, quand je suis dans le rectorat à 200 mètres de son bureau, elles restent très extérieure à elle, et que je suis sûr qu'elle a les mêmes objectifs que moi dans ce qu'elle a pour ambition par rapport à la formation, évidemment. Donc, bien sûr que c'est pas le pays des bisounours, c'est le résultat d'engagement, de volonté. Est-ce que alors, moi, Laurent, si on mélange formation initiale et formation continue, tu as dit, Dans la formation initiale, à chaque fois, on dit « tu ». Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Moi, dans la formation continue, je pense vous. Et bien sûr que tu as raison de dire que l'AFC, c'est comment je suis du métier. Mais alors là, le cadre de soja, clos, etc., bien sûr que moi, je me l'incorpore. C'est-à-dire que avoir du métier, être du métier, bien sûr que c'est de ça qu'on parle. Mais le vous, en formation continue, c'est ça qui est essentiel. Alors, partir des difficultés, partir des réussites. Moi, je vous garantis que quand on commence un stage en disant aux collègues, vous allez écrire dans votre classe que vous réussissez bien, ben ça, c'est à la troisième session. C'est à la troisième session, on arrive à ce que les collègues disent, oh, j'ai essayé des trucs, c'était super. Et on arrive à leur faire mettre en forme pourquoi c'était super.
Tu peux contourner ça en disant, si vous deviez changer beaucoup de choses dans la classe, quelles sont les choses que vous, auxquelles vous tenez que vous ne changeriez pas?
Voilà.
La première session, ça marche toujours.
Qu'est-ce qui vous coûte?
Et au retour de bilan de stage de première année, enfin de formation initiale, dire non pas qu'est-ce que vous avez raté, mais finalement qu'est-ce que vous avez bien réussi. Alors je vous dis, ça change tout. Là, ils le disent. Hein.
Est-ce qu'on s'appuie sur les difficultés
tout.
Le travail du formateur, Laurent, il est bien sûr qu'il a quelque chose derrière la tête, enfin. La question, c'est que si au bout de 2 heures de stage, il y a la moitié du groupe qui sait qu'il est catalogué innovateur et l'autre moitié qui est catalogué vieux réac crocodile, qui connaît même pas les IO de 2002, il y a aucune chance qu'on s'en sorte. Bien sûr, personne fait ça. Mais ceci dit, si moi, en tant que formateur, je garde ce postulat, je dis, on va faire un nous, à partir de vos objets, mais je vais trier dans vos objets. Mon boulot de formateur, ce qu'on va demander aux formateurs, ce qu'on regarde, ce que moi je regarde faire des formateurs qui marchent bien, c'est qu'ils sont capables de dire, oui, il y a des choses de la consigne, de l'activité du maître, de l'activité de l'élève, de l'entraînement, du bas niveau, de l'entrée par le culturel, etc. Et il va, voilà, il y a une pluralité.
Sylvie.
Oui, moi je voulais donner ici un témoignage sur ce qu'on est en train de mettre en place sur les stages des T1. Alors, ce qui est sur Paris.
C'est lieu de rencontre.
Oui. C'est-à-dire que jusqu'alors, ça a été des stages de disjonction. C'est-à-dire qu'on avait des interventions contradictoires. Enfin, c'était pris en charge par certains et on demandait à d'autres des interventions. C'était dix choix. Donc, nous sommes en train de travailler sur quelque chose. Je ne sais pas quels seront les effets puisque c'est ce que nous mettons en place cette année. Il y a de la part des circonscriptions. Des demandes qui ont été formulées soit par les circonscriptions elles-mêmes, enfin les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, soit des remontées de la part des stagiaires bon, qui ont informé sur des attentes qui sont pas forcément en convergence. Et je l'ai dit, territorialement, on n'a pas les mêmes demandes. Nous répartissons le stage à partir de plusieurs logiques. L'idée que les professeurs stagiaires, c'est pas seulement la formation qu'ils vont recevoir, c'est le groupe aussi qu'ils vont constituer pendant le temps de ce stage qui va être un moment aussi très important et qui obéit à plusieurs logiques. Il y a, on va dire, une logique territoriale. C'est vrai qu'ils ont besoin de connaître, de travailler avec des personnes qui sont dans la même zone géographique, qui ont à peu près les mêmes publics et qui vont pouvoir se rencontrer. Mais ils ont aussi besoin de travailler avec des personnes qui sont au même niveau d'enseignement et qui ont donc des problèmes de CP, par exemple, ou de CE1, etc., dans des contextes différents. Donc il y a le début et la fin du stage qui sont encadrés, pris en charge, on va dire, par les circonscriptions, qui vont être très axés sur des questions d'analyse de pratique, à partir de leurs propres pratiques, de pratiques qui leur sont présentées, un petit peu qui ressemblent...
Et là, ils sont en niveau, là.
Alors, non, ils sont par circonscription.
Ils sont par circonscription.
Et donc, en fait, ils vont, par rapport à un public, sur un certain nombre de thématiques...
Oui, on est plutôt sur l'environnemental.
Oui, et autour de questions, beaucoup de questions pédagogiques. L'entrée est assez souvent pédagogique. Et puis, il y a une partie qui est avec une entrée beaucoup plus didactique. Voilà. Donc, où ils sont regroupés par cycle et qui va être nécessairement prise en charge à chaque fois par des équipes. C'est-à-dire que, on a choisi là-dedans de traiter, certains modules qui vont être en complément de formation, d'autres qui vont être des points neufs. et sur lesquels on pense qu'ils n'ont, enfin, on sait qu'ils n'ont pas travaillé
À l'UFM
par durant la formation. Alors, il y en a un qui est très simple, c'est l'EPS. Ils ont eu très très peu d'EPS.
Oui, puisque on sait qu'ils n'ont pas à la faire.
Voilà. D'accord. Et donc, alors, nous leur laissons un module. Il y a trois modules de, peu importe les chiffres, les quotités horaires. Il y a un module qui est complètement à leur choix. Qu'ils en aient besoin
libre
ou pas,
ouais.
C'est-à-dire que certains vont renforcer des points qu'ils connaissent, d'autres vont découvrir. Enfin, c'est leur choix et celui-là va être aussi dans la transversalité, c'est-à-dire qu'il va
de la maternelle au CM2 et pour toutes les matières.
Voilà. Et celui-là, donc, on leur laisse cette liberté. Et puis sur certains domaines, on a décidé de travailler complètement des points neufs, en se disant que ça n'a pas été travaillé et que on fait aussi le pari de finalement d'une disponibilité de leur part sur cela, y compris dans la didactique du français.
Nicole, tu voulais intervenir.
Oui,
Sylvie,
oui.
Tu voulais intervenir.
Oui, moi je suis étonnée qu'on n'ait pas abordé la question du caractère non obligatoire de la formation continue. Pour moi, je pense qu'une des différences assez essentielles entre formation initiale et formation continue, c'est pas seulement la différence entre novice et chevronné. C'est qu'en formation initiale, on a un public captif. Ils sont là, ils ont passé leur concours, la formation c'est obligé, ils sont payés pour ça. La formation continue dans notre métier, elle est basée sur le volontariat. Bon, ça rencontre aussi les problèmes d'offres qui ne sont pas toujours en augmentation. Mais dans un système tel que celui que Patrick a décrit, est-ce qu'il n'y a pas un double tamis? C'est-à-dire que tu n'as pas tout à fait la population enseignante, ordinaire.
Si.
Tu vas d'abord avoir des gens qui demandent à partir en formation continue. Et parmi les gens qui vont demander à partir en formation continue, tu vas avoir des gens qui acceptent de s'engager dans un processus où ils vont avoir... une forme de va-et-vient avec leur propre pratique en classe, etc. Et moi, je pense que d'une certaine manière, c'est peut-être un peu ce que Laurent a voulu dire quand il a dit partir de ces éléments-là, c'est comme si ça renvoie à des gens qui,
même s'ils ne sont pas n'importe lesquels, qui se sont auto-sélectionnés.
Très engagés. Alors, la deuxième chose, c'est que du coup, je pense que c'est extrêmement intéressant. Mais moi, je vois ça comme objet de réflexion particulière. À la deuxième, moi, je voudrais bien que tu nous dises, j'ai un peu d'idées, quels peuvent être les enseignants qui se lancent dans cette aventure, mais les formateurs, qui sont-ils? Comment ils sont déterminés, choisis? Est-ce que là aussi, on a une sorte de tri? C'est-à-dire que parmi tous les formateurs qui existent dans l'académie, tu présentes le dispositif, et puis tu as ceux qui marchent et qui disent... Ça vaut le coup, quoi, parce qu'il y a de l'épaisseur, et moi j'y vais, et est-ce que du coup, du côté des formateurs, t'as pas aussi une sorte de tamis? Et du coup, c'est très intéressant, mais il y a une forme, le prend pas mal, parce que vraiment d'élitisme.
Alors, je pense que c'est une question essentielle. Alors, sur le volontariat, moi je veux témoigner. Alors, bien sûr, l'expérience que je raconte, c'est qu'un tout petit témoignage, et bien sûr...
Vas-y.
Le volontariat... C'est ce qui permet la diffusion. Je veux témoigner ici, il y a trois collègues conseillers pédagogiques de mon département qui sont là, je pense qu'ils pourraient dire des choses là-dessus. Le volontariat permet de diffuser. Moi, mon pilote, c'est quand l'IEN me rappelle en me disant « Écoute, je vais te dire un truc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le stage, mais je te garantis que j'ai vu 10 instituts débouler à la circo en me disant « On veut prendre en charge la
diffusion. » Deux par école, il a dit. Ça change tout.
On veut débouler, on veut contribuer avec vous à la mise en œuvre de l'organisation pédagogique, des conférences pédagogiques. C'est-à-dire qu'y compris, ils ont pris du pouvoir sur l'IEN et ça peut aussi poser des questions à l'IEN. Le fait qu'ils ont dit que ce qui s'est fait, ça se diffuse. Alors, bien sûr que ce n'est pas des gens ordinaires qui demandent d'aller en stage. Par contre, je veux témoigner du fait que c'est des gens ordinaires quant aux pratiques didactiques. Et qui sont voilà. Donc on pourrait multiplier les choses. Moi, ce que je dis, c'est que il y a deux points de vue essentiels. C'est que ça leur a permis de reconsidérer la manière dont ils voyaient leur conseiller pédagogique. C'est-à-dire le conseiller pédagogique n'est plus celui qui vient dire la norme que lui a demandé de dire l'inspecteur, que lui a demandé de dire les programmes. Je ne dis pas que c'est ce que vous faites dans vos circos. Bien sûr que tout... Simplement, je sais que la vision que les collègues ont du conseil pédagogique est compliquée. Donc, ça réinscrit... Alors, je vais le dire autrement, pardon si j'ai été blessant. Ça réinscrit le conseiller pédagogique de plein droit dans le processus de formation et de groupe au niveau de sa circonscription.
Alors, juste un petit point pour redonner la parole, c'est que le fait qu'il y ait deux personnes et qu'on n'accepte pas s'il n'y en a qu'une, ça veut dire qu'il y aura de la discussion en salle des maîtres possible, alors qu'on sait très bien qu'autrement... pour moi, ça me paraît un point très important du dispositif. Et la deuxième chose, on peut avoir plusieurs stratégies de formation, il a présenté celle-là, les stages d'école où tout le monde dans une école est en formation en font une autre. À mon avis, c'est un des lieux sur lesquels il faut réfléchir pour répondre à la question de Nicole, mais ça, c'est une autre stratégie puisque les gens sont de tout niveau. Alors il faudrait voir comment... Le troisième point, c'est que pour moi, la formation continue a été un lieu de formation personnelle extraordinaire puisque c'était le lieu de la co-intervention. C'est-à-dire que c'est le seul endroit aujourd'hui qui reste dans le système où c'est relativement possible de voir fonctionner quelqu'un d'autre qui a une autre compétence que vous, alors que, qu'on soit du UFM ou qu'on soit de terrain, alors que c'était possible à un moment donné en école normale et que c'est devenu très difficile. Moi, je ne suis plus arrivée à le faire en UFM, sauf pour les bilans de stage, préparation de stage.
Pour les APP, l'exemple que je donnais,
oui, c'est ça. Oui, alors l'APP, c'est ça. Mmh. Oui, c'est vrai. Oui, en formation initiale. En formation initiale. Là-bas, il y avait... Oui,
il y a Marie-Thérèse. Alors,
j'ai le micro.
Marie-Thérèse. C'était pour plusieurs points. Un, pour soutenir... quand même rappeler que c'est vrai. Cette question institutionnelle du volontariat pour la formation continue. Finalement, il y a un premier verrou qui a sauté. C'est que les T1, ils sont en formation continue. En même temps, on peut dire que c'est initial, mais ils ont déjà une classe.
Oui.
C'est initial prolongé. On pourrait se dire, institutionnellement, ça pourrait quand même peut-être bouger et que tout le monde, à un moment, soit obligé de revenir en formation. Je ne sais pas, ça s'est inventé, mais quand même dans toutes les académies...
Si ce n'est pas diplômant, il n'y a pas de raison. Et si ça ne change pas le statut, impossible avec le statut de la fonction publique.
Mais il y a des académies dans lesquelles on s'est aussi posé la question du pourquoi les gens n'y venaient pas. Par exemple, les questions géographiques à tel moment, etc.
D'âge, etc. Voilà.
Donc, ça, c'est les points. Tout à l'heure, Sylvie a fait un inventaire de contraintes pour la formation initiale. Il me semble qu'il y a des contraintes pour la formation continue qu'on pourrait aussi inventorier. Et du côté des formateurs, il y a aussi des contraintes, en effet. Et il y a ce filtrage. Qui va faire de la formation continue? Parce qu'il me semble quand même que c'est autrement plus difficile, la formation continue, en ce sens que les questions vont être diverses, que les gens ont du répondant, et que donc, en effet, quelles seraient les compétences particulières pour assurer de la formation continue par rapport à celle de formation initiale. Il me semble que ça, on ne se l'est pas souvent posé les questions et ça vaudrait la peine. Pour témoigner, je suis très investie dans la formation continue depuis des années, des difficultés, de la bagarre permanente pour que ça existe et pour que même quand il y a des collaborations, personnellement je suis impliquée dans un groupe départemental maternel, voilà, c'est un exemple dans lequel il y a conseiller pédagogique qui met formateur, enseignant à UFM, après, on produit ensemble des projets de stage et on se voit dans des contraintes telles que tout ce qu'on a pu penser ensemble est carrément démoli, mis en danger de toutes sortes de manières. Donc, je voudrais simplement...
Penser ensemble, qui avec qui?
Simplement, c'est
toutes
en effet
au
niveau de...
Penser ensemble, qui avec qui? Répondez.
Alors, penser ensemble au niveau... Répondez, attention, je réponds. Penser ensemble, conseiller pédagogique, formateur IUFM, IEN responsable de ce groupe départemental, dont on peut penser, puisqu'il a été mis institutionnellement, qu'il pourrait avoir du poids par rapport à une organisation globale. Donc, en effet, penser ensemble, ça veut dire remonter aux instances
de décision,
ça veut dire inspecteur d'académie, et maillon intermédiaire. Or, tout ce travail-là, on essaye de le faire. Je veux dire, ça passe par des bagarres. Je voudrais juste témoigner de l'aspect formateur que représente ce travail en commun dans des situations de formation. Simplement, rappeler qu'il est minoritaire et que investir ces terrains-là, c'est du travail aigu, pointu, et que on devrait quand même rappeler que dans les profils actuels de recrutement dans les formations des formateurs UFM, on se base fondamentalement sur la formation initiale.
C'est vrai.
Et que personnellement, dans mon UFM, celui de Montpellier, il a fallu se bagarrer en permanence pour que les tâches de formation continue soient considérées comme importantes.
Faisant partie.
Hein, ouais, voilà. Ouais. Et que donc, voilà.
Merci. Derrière.
Oui, je voulais reprendre. Effectivement, le fait que ça soit volontaire fait qu'on a une certaine part des stagiaires qui sont des stagiaires, on va dire, avertis, qui ont envie d'avancer, qui se posent des questions. Puis il y a une autre partie des stagiaires qui est une partie de personnes qui viennent pour se soulager et pour ne
souffler.
Plus être... Pour souffler. Oui. Je crois que c'est absolument... Non. Mais c'est pour ça que je voulais le souligner, parce que ces gens-là aussi sont en stage, et c'est un moment particulier dans leur vie professionnelle pour... Exactement. Et je pense que, les prendre en considération au même titre que les un peu plus experts qui nous arrivent et qui vont partir déjà d'une réflexion avancée est nécessaire. On a des groupes, là aussi, assez hétérogènes. Moi, je voulais... donner l'exemple de l'Académie de Créteil et particulièrement la Seine-et-Marne sur laquelle j'interviens en formation continue. En formation continue, on nous donne, alors je trouve cet exercice absolument, je vous le donne tel qu'il nous est proposé. Nous avons donc là les directives qui nous viennent d'en haut pour le plan de formation. Les enseignants et formateurs, maîtres formateurs de l'UFM se réunissent dans une grande salle pour essayer de proposer et de décliner des stages à partir des directives qui nous sont données. Donc le soir, différents stages sont proposés, souvent les mêmes que l'année précédente, avec les mêmes intervenants. Et quelquefois,
est-ce que le nom des intervenants apparaît dans le plan de formation?
Pardon?
Est-ce que le nom des intervenants est cité dans le plan de formation ou seulement les titres?
Pas tout à fait. Certains sont fléchés, on va dire.
Mais tant qu'on n'a pas des exemples qui vont jusqu'à ce détail concret, on ne comprend rien comment ça fonctionne le système.
Mais bon, donc certains stages sont déjà répartis, on va dire, à l'avance. Les formateurs souhaitant, avec le recul, changer, améliorer, répondre davantage et plus précisément aux demandes qu'ils ont perçues l'année précédente, par exemple, ou en allant dans les circonscriptions, ce qu'ils ont entendu, ou en discutant avec les IEN avec lesquels ils sont en relation, ou des conseillers pédagogiques, répondre davantage et plus précisément à des demandes qui, semble-t-il, sont sous-jacentes à ce qu'on leur demande de faire en formation continue. Revoit un petit peu le stage qu'il propose. Et puis dans un autre retour, on revoit les mêmes titres qui étaient proposés au départ par la commande, réapparaître, etc. Donc c'est un petit peu frustrant. Bon, on arrive à faire évoluer légèrement d'une année sur l'autre en discutant. Deuxième façon de procéder pour les T1. Alors, formation initiale, formation continue. Il y a une vingtaine de circonscriptions dans la Seine-et-Marne. Je travaille personnellement sur une circonscription dans laquelle, avec laquelle j'ai des relations, on va dire, que j'estime privilégiées, étant donné que nous sommes sur deux circonscriptions uniquement sur les 20 à travailler de cette manière, c'est-à-dire avec conseillers pédagogiques et donc en co-intervention. Nous sommes deux parce que dans les autres circonscriptions, il y a eu un refus absolu de travailler en co-intervention. Donc, difficulté. Voilà. Et au niveau du second degré, puisque j'interviens aussi au niveau du second degré, alors là, contrairement à toutes mes attentes, je dirais, mais j'avais peut-être une représentation trop figée, je travaille là sur en transversalité sur la maîtrise de la langue. Et nous avons réussi en 2 ans, grâce à l'IAIPR de lettres avec laquelle je travaille, puisque je suis présidente de cette COFOR langage, maîtrise de la langue, Nous avons réussi à faire complètement évoluer ce travail de proposition de stage en réponse à la commande rectorale.
Des profs de lettres, voilà.
Et alors justement, nous sommes sortis de la commande prof de lettres pour travailler maintenant dans cette cohort, on va dire. Nous avons des représentants de toutes les disciplines et nous travaillons la maîtrise du langage dans toutes les disciplines. Et là, je dois dire que je suis assez contente cette année de voir enfin arriver une réponse aux questions que l'on nous posait, que les enseignants posaient et auxquelles ils n'avaient.
Vous avez vu la dernière enquête sur l'évolution des fonctionnements, enfin du monde de primaire, secondaire, qui montre comment le primaire, l'école élémentaire et maternelle se définit davantage disciplinairement de type second degré. Mais qu'en même temps, le collège, pas le lycée, se définit davantage aussi en relation à la relation pédagogique. Alors, il faudrait voir ce qui est en train de se passer. Sylvie, tu veux intervenir
là-dessus ? Une seconde. Je voulais dire, à propos du dispositif de Patrick, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, tout à l'heure, Anne-Marie, tu disais, j'ai beaucoup appris en co-animant, et pour avoir des dispositifs un peu intéressants, je trouve, sur la formation continue, moi, j'ai beaucoup appris du métier en faisant de la formation continue. Et
donc, moi aussi.
Et il me semble que les partenaires, là, dans la formation, c'est aussi les enseignants. Alors, le fait qu'ils soient volontaires ou pas. Moi, j'ai plusieurs explications. La première, c'est qu'il y en a qui sont quand même particulièrement bons et qui n'en ont plus envie de faire de la formation continue. Parce que ça y est, ils savent faire. Et c'est quand même un des rares métiers où on continue à dire oui, le meilleur boulanger de France, on le connaît, quoi. Il peut bien y avoir des meilleurs ouvriers de France. Et moi, l'obligation de la formation continue, j'y crois pas. Il y a des gens qui se forment à l'extérieur, qui vont à l'université, etc. On n'a pas à faire de l'ingérence sur la formation des gens. Quand on regarde dans les UFM, et j'en ai fait partie, la formation de formateurs, et Michel Bois pourra témoigner, on ne peut pas dire qu'on soit les champions du monde de notre formation continue. Il me semble qu'on a plein de formateurs qui, alors même qu'on fait des dispositifs de formation de formateurs extraordinaires, n'en mettent jamais un pied. Donc là, moi, je n'ai pas de leçon à donner sur la question. Et ce que je trouve intéressant, c'est exactement ce que tu dis sur la diffusion. Le coût des motivés qui font, heureusement, et moi je ne crois pas qu'on puisse obliger ça, mais alors le bouche à oreille, ça fonctionne parfaitement bien. Et quand le dispositif est validé par la profession, et je crois que là, ça diffuse bien. Et là, il faut leur faire confiance sur la valeur qu'ils mettent au dispositif, et ils y reviennent, et c'est 47 établissements qui demandent.
Un petit point d'histoire là-dessus. Je dirais que cette fonction de formation des meilleurs par eux a été assumée très longtemps par les mouvements pédagogiques.
Exact.
Lorsque la formation continue 70 s'est mise en place en service, d'une certaine manière, ce qu'on visait, c'était ceux qui ne faisaient pas partie des mouvements pédagogiques et des mouvements qui étaient aussi, je dirais, des zones de diffusion des mouvements pédagogiques. Et moi, j'étais très pour la pédagogie ordinaire en disant, en gros, les autres, ils sont l'oxygène du système scolaire, mais ils n'ont pas besoin des écoles normales. Ils fonctionnent très bien entre eux. Bon. Or, ce que la formation continue pendant le temps de service a produit, c'est une chute de l'influence des mouvements pédagogiques, puisque quand ils jouaient le rôle de la seule formation continue existante, ils diffusaient bien au-delà d'eux-mêmes. Et du coup, les mouvements pédagogiques ont commencé une zone de décroissance extraordinairement forte. Donc, aujourd'hui, on se trouve avec une double perspective d'obligation de service en formation continue. C'est aussi former ceux qui vont être aider ceux qui sont meilleurs. Je suis d'accord avec toi, il y en a qui sont très bien dans leur classe, mais vous voyez, on en voit beaucoup qui se forment dans une perspective de spécialisation didactique. Et ça, c'est une nouveauté complète dans le système primaire. C'est-à-dire que vous voyez des maîtres d'applique, finalement, ils sont surtout sur les problèmes d'enseignement du français, ils sont des spécialistes de l'enseignement des sciences, ils font des PAC, etc. Vous comprenez. Ça, c'est une chose qui est intéressante parce qu'il ne faut pas le prendre de manière négative, mais aussi positive, comme une richesse du système. Mais c'est une autre stratégie d'être sur le tout venant, je dirais, comment aller chercher les gens qui veulent bien mais qui sont pas de ce côté-là, et je dirais que des stages de ce type-là peuvent y contribuer. Et puis il y a le problème de la formation des ceux qui viennent pas ou peuvent pas venir pour des tas de raisons, y compris, je dirais, matérielles. Et là, à mon avis, il y a plus que les stages d'école, parce que je crois pas aux grands messes pédagogiques, bien que j'en fasse beaucoup les samedis matins. Mais on peut faire la messe sans avoir la foi.
Je peux peut-être prolonger là-dessus. Je crois que dans les variables,
y a effectivement la variable du public, c'est-à-dire public contraint, public volontaire,
désigné,
oui. Désigné, enfin toutes ces, pour avoir animé énormément de stages au moment de la mise en place des évaluations, ceux de sixième, à public désigné, non volontaire, je peux dire que je pense que c'est très très dur. En même temps, c'est, je crois que c'est là que j'ai fait la partie la plus efficace peut-être de mon travail en formation continue. Ceci dit, c'était
C'est sportif.
Une épreuve vraiment extrêmement dure. Bon, j'ai fait pendant 5 ans. Il y a aussi la question de la durée des stages qui est extrêmement importante. Et là, et donc le point institutionnel qui pèse sur, enfin je veux dire, toutes les contraintes institutionnelles sont beaucoup plus lourdes quand un stage est très très court. L'exemple sur Paris, c'est des stages qui ont été mis en place, des stages lecture, parce que c'est vraiment la préoccupation centrale de notre recteur, donc de notre inspecteur d'académie. Donc des stages de 2 jours, et on me demande, puisque moi j'ai participé à la conception de ces stages, voilà, vous allez nous envoyer 8 profs d'IUFM pour pouvoir intervenir telle demi-journée. C'est pas possible. Enfin, c'est des gens qui ont un métier quand même, les profs d'IUFM. Ils ont autre chose à faire et ils refusent tous en plus. Ils ont raison. On leur demande une intervention théorique de 3 heures dans un stage dont ils n'ont pas la maîtrise. Je n'arrive pas à trouver. Je ne veux pas ennuyer mes collègues sur ça. Donc, on est en panne sur des organisations disloquées comme celle-ci. C'est vrai qu'en 2 jours. Je ne sais pas.
Je peux dire quelque chose là-dessus. Une année, j'avais réussi à faire passer l'idée que pourquoi on est obligé d'encadrer pendant 24 heures les personnes qui sont en stage de 3 semaines. On leur demande la rédaction d'un projet en disant comment ils organisent leur temps la première semaine. La deuxième semaine, ils sont libres. La troisième semaine, ils sont pris que le matin. Mais ils ont il faut qu'ils rendent compte de leur projet. Alors des projets de lecture, des projets d'organisation à l'intérieur de l'école où ils sont déchargés de leur classe puisqu'ils ont leur stagiaire, mais ils peuvent faire enfin le traitement de la BCD qu'ils voulaient. Des projets à plusieurs qui sont de l'avancée de rédaction d'un mémoire professionnel parce qu'ils voudraient faire le CAFIPEMF l'année prochaine. Ils sont en train de réunir des documents. Tous les projets qui peuvent être de valorisation de services. On continue de pleurer sur le mode d'organisation et sa rigidité. On a dans ces 3 semaines des possibilités énormes. Il suffit de les faire valider institutionnellement. On a tout le temps l'idée que si les instituts ne sont pas encadrés, ils foutent rien. C'est pas vrai.
Justement, par rapport à ça,
je voudrais... Oui. Attends, voilà. Une intervention devant, puis on te redonne la parole. Vas-y.
Donc j'appartiens au pays des bisounours, ce qui n'est pas le pays des bisounours en vérité. Je voudrais simplement apporter une petite modulation sur la notion de volontariat, parce qu'en fait, il y a double volontariat. Il y a ceux qui sont vraiment volontaires, il y a eu beaucoup de demandes, il a fallu les choisir. Et puis il y a ceux qui ont été aussi incités par l'IUN à participer à ce stage. Et ce qui est assez étonnant, là, pour le dernier que je suis actuellement en maternelle dans l'Yonne, c'est que dès la première session, une des personnes qui était réticente, qui n'était pas complètement volontaire, qui a été une volontaire un peu
désignée,
on va dire, ça existe aussi, et celle qui a dit maintenant, qu'est-ce qu'on va. Comment on peut, nous, vis-à-vis des autres collègues qui ont voulu faire ce stage et qui n'ont pas pu le faire, comment nous, on peut diffuser ce qu'on est en train de faire, parce qu'on vient d'apprendre des choses. On n'y croyait pas au départ, parce qu'il y a aussi des propositions, effectivement, de leur faire vivre des situations qui leur permettent de mettre à distance des pratiques, enfin, etc., qui peuvent reconduire en classe. Il y en a qui n'y croyaient pas, qui ont essayé, qui reviennent. J'y croyais pas à ton truc, je l'ai fait, ça marche. Et maintenant, je voudrais pouvoir en témoigner auprès de mes collègues.
Mais j'y croyais pas à ton truc, je l'ai fait, ça marche. C'est aussi ce que disait Sylvie pour la formation initiale. Voilà. À mon avis, je pense que ça, c'est un point qui est transversale formation initiale, formation continue. Ça ne veut pas dire que les stratégies de formation en formation initiale et en formation continue peuvent être elles sont disjointes. Voilà. Il faut les penser de manière totalement disjointe. Tu voulais intervenir? Non? Qui était? Oui, vas-y. Geneviève.
Je voulais encore apporter un témoignage de ce qui va se pratiquer à partir de l'année prochaine. C'est un stage prévu justement En partie à distance, en fait, travailler à distance et organiser comme ils l'entendent par les stagiaires, et en présentiel avec des formateurs, en utilisant, alors certains vont sûrement hurler parce que cet outil est décrié étant donné qu'il a le mauvais goût d'avoir été pour certains conçu en partie par Bentolila, mais un outil qui est le campus numérique TFL pour la lecture et TFM pour les mathématiques. L'UFM de Créteil l'utilise puisque ce campus numérique a été au départ conçu à la fois par le CNED, par Paris 5 avec Bentolila et par l'UFM de Créteil. Donc on utilise les outils qu'on a aidé à construire. Le stage, donc des stages de 3 semaines seront conçus de manière à permettre aux enseignants. Alors, je rassure tout de suite, le nombre d'heures payées aux formateurs, etc., ne sera pas réduit parce que il s'agit d'accompagner au long du stage les enseignants qui peuvent soit travailler à domicile, dans leur école, etc., sur certains jours, en allant rechercher des informations, par exemple, sur TFL, en produisant une réflexion qui ensuite, quand
est réinvestie dans le stage,
qui est réinvestie dans le stage et qui permet de construire des outils. On tient énormément à ce qu'il y ait des outils construits. Éventuellement, dans ces 3 semaines, une mise en action et un retour au niveau du stage de ce qui s'est produit, etc. Donc voilà une nouvelle forme de conception.
Alors, moi, je voudrais profiter de ton intervention pour dire qu'il y a 2 choses qui vont, dans les 10 ans qui viennent, vont transformer les modalités de la formation initiale et continue, qui sont justement du côté des outils. Une des premières choses sur le problème de la relation au terrain en formation initiale, c'est le problème de l'utilisation facile des vidéos. Parce que tant qu'il fallait se déplacer dans les classes pour avoir les situations communes de référence, c'était d'une lourdeur absolument incroyable. Actuellement est en train de se constituer des vidéothèques, des bandes de petites situations. Et à partir du moment où, au lieu d'avoir simplement, quand j'ai ce discours théorique là, avec l'étoile et les 5 points, ou le magnifique diapo de Sylvie dont je vais me resservir sur les contraintes de la situation, ce qui me manque, c'est par exemple, pour pouvoir avoir les situations de référence. Or, ce qui va nous produire un accès à situations de référence, c'est bien que la vidéo soit pas la réalité, mais quand même le mode de les situations où les enfants sont en train de faire et où on entend la maîtresse et les interactions, et sur lesquelles on va pouvoir réfléchir ensemble dans un groupe. C'est une urgence de les constituer comme outils et puis de les faire circuler pour savoir si elles sont interprétables seulement par la personne qui a enregistré ou si elles sont des outils qui peuvent être finalement disponibles pour d'autres. Et la deuxième chose... Pardon, vas-y.
Je vous le recommande sur, non pas qu'est-ce que les enseignants ou les élèves sont en train de faire, mais qu'est-ce que les stagiaires et les formateurs sont en train de faire.
Et la deuxième chose, c'est le problème des mises en ligne et des interactions aussi, des suivis de stage qui peuvent avoir lieu par les campus numériques et par Internet. C'est-à-dire que là, c'est des choses qui sont déjà extraordinairement présentes dans les pays d'Amérique du Sud. Je suis en train de travailler avec une collègue qui travaille sur la formation à distance au Brésil, où ils ont informé des dizaines et des centaines de milliers de gens qui sont très dispersés, très loin. Et on sent bien comment l'ancien audiovisuel descendant coince complètement, ça marche pas. En revanche, l'accompagnement de dispositifs avec des moments de chat ou de retour permet des accompagnements inter... Il faut toujours du présentiel, en début, en milieu, en fin de stage, pour que les gens se connaissent, se voient, constituent des groupes, et après puissent s'écrire. Mais le mode de fonctionnement de l'accompagnement et de l'action-réaction est en train de se déplacer. Alors, l'INRP... Tous les gens qui travaillent sur l'environnement numérique et les campus, l'organisation des TIS à l'intérieur de l'éducation offrent des outils dans cette direction. Je pense que ça va être un point important de nos dispositifs qu'il faut penser dès aujourd'hui. Qui c'est qui n'est pas d'accord? Oui, vas-y.
Non, mais je ne voudrais pas tempérer le temps
ton enthousiasme, parce que...
Ah, c'est pas de l'enthousiasme, c'est des craintes, il va falloir faire avec.
Si, c'est un enthousiasme qui porte dans une technique qui quand même existe depuis un certain temps, la vidéo. Je veux bien que sa numérisation, etc., facilite les choses. Mais le problème de fond du regard extérieur sur la pratique enseignante n'a que peu de choses à voir avec l'aspect technique. Le frein, il est professionnel. Moi, je suis maître formateur. Que des stagiaires viennent dans ma classe, ça ne pose aucun problème. Que des stagiaires parlent de ce que je fais dans ma classe, ça ne pose aucun problème. Mais le problème que j'ai avec mes autres collègues maîtres formateurs, c'est que l'on parle les uns sur la pratique des autres. D'oser le faire, d'oser se mettre, je vais dire tout nu pédagogiquement, devant ses collègues, d'oser accepter ce regard, d'oser, c'est déjà pour des gens qui sont quand même considérés comme des experts chevronnés, tatati, tatata, ce qu'on voudra, une difficulté. Alors, les stagiaires, eux, ils ont le bénéfice de l'ignorance.
Oui, comme j'ai dit, c'est ça qui est merveilleux.
Voilà, donc la naïveté, ils peuvent présenter ce qu'ils veulent. C'est pas... Déjà, pour eux, c'est... Mais nous, c'est comme je vois comment c'est difficile, je me dis que le blocage, il est pas... Ça serait tellement facile.
Laurent, quand je dis que ça va changer les choses, je veux dire que toi, tu es déjà sur une perspective qui est d'amélioration. Moi, j'en suis pas là. C'est sur une perspective que quand on parle en classe à l'UFM de qu'est-ce que c'est un travail de groupe, d'un petit groupe en maths, qu'est-ce que tu veux que les élèves en face de les PE1 ou PE2 à qui je parle voient dans leur tête quand je leur parle de ça?
Le problème, c'est pas le problème. Le regard, c'est sur le travail de l'enseignant.
Après,
moi, je règle. Tu sais, il y a plein de prétextes à pas filmer. Les autorisations des enfants.
Oui, bien sûr.
On te trouve.
La CNIL, maintenant, c'est terrible.
Tu as raison, le droit à l'image, le patel. Je leur dis, vous inquiétez pas, moi, je filme pas les élèves. Je les filme de dos. Il n'y aura pas de problème avec les parents. Et ça résiste quand même. Moi, je filme l'enseignant. Quand on est sur les fers, il suffit de cadrer l'enseignant, je dirais, de là jusque-là. Et j'en suis à un point, personnellement, sur cette affaire-là, à me dire. On va travailler sur... Moi, là, c'est un cheminement complètement personnel qui n'est pas intéressant pour le débat, mais j'en suis à me dire, je vais mettre un magnéto, moi. Ça me suffira pour travailler. On va plus s'emmerder avec les problèmes d'image, parce que c'est fatigant à force, quoi. Un magnéto, et on va travailler sur le son. Et déjà, rien que sur le son, on peut faire plein de choses. C'est pas vrai, parce que je pense dans la posture, etc.
Pour les enfants, pour le maître, oui, souvent. Pour les enfants, non.
Non, moi je voudrais dire qu'il me semble qu'il y a vraiment deux usages très différents de la vidéo. Il y a l'usage pour l'analyse de pratique, qui est un peu celui dont tu parles là, et moi, qui me semble tout à fait intéressant, mais c'est pas comme ça que j'avais entendu.
Oui, absolument.
Ce que dit Anne-Marie, ça m'a évoqué la banque de séquences didactiques qu'on trouve sur le site du CRDP de Montpellier. Moi, quand je suis tombée là-dessus, vraiment,
absolument.
C'est une mine de séquences pédagogiques de 10 minutes.
Très courtes.
Qui sont pas faites pour analyser la pratique de l'enseignant. C'est pas principalement ça. Mais c'est pour montrer effectivement à des enseignants aussi bien en formation continue qu'en formation initiale un certain type de séquence didactique. Ça donne pas toutes les clés d'analyse de comment s'y prend l'enseignant. Il y a plein de trous, il y a plein de blancs qui sont à combler, etc. N'empêche que ça permet de parler des choses.
Ça donne pas du concept, ça donne de la représentation de situation.
Ouais.
Et les gens les...
Mais... Je ne connais pas, mais sur la pratique maître.
Oui.
Excusez-moi. Donc, alors là,
moi, je pense que sur cette question-là, il y a deux écoles. Moi, j'ai vu beaucoup de conférences. J'ai vu beaucoup de conférences pédagogiques. Et c'est un travail qu'on a mené en formation de conseillers pédagogiques, où les conseillers pédagogiques avaient pensé une situation de travail où ils montraient une séance didactique. Regardez comme ça les fait rire. Et ils montraient une séance didactique où on voyait une enseignante faire du guilénas de manière experte, elle pourrait témoigner de l'effet que ça produisait sur les enseignants. La vidéo, c'est faire rentrer le vrai monde de la classe, pas la représentation qu'on en a qui n'autorise que les parleurs à en parler. Alors, je dis pas qu'il faut pas montrer des situations didactiques. Par contre, montrer la variabilité des manières de faire, je vous la décale pour que on puisse pas avoir de difficultés entre nous. Moi, quand en enseignement professionnel, je filme un prof de PS un prof d'atelier et un prof de français qui ont la même classe de CAP post-SECPA et que le prof de français se dit « Mais bon Dieu, comment ça se fait que dans l'atelier, les gamins sont à plusieurs, qui travaillent sur un projet et qu'ils ont les critères de validation de leur travail sans que le prof ouvre la bouche, alors que moi, en français, je m'explose à essayer sans arrêt de monter les situations. » Simplement en regardant faire la variabilité de ce qu'ils avaient les uns et les autres comme contrainte, ils se sont aperçus qu'ils avaient des pouvoirs d'agir, des variables qu'ils avaient tellement intériorisées comme étant des contraintes disciplinaires qu'ils ne se posaient même plus la question. Donc c'est l'analyse. Alors, analyse des pratiques, analyse de travail. Quand on dit ça, on a l'air un peu d'enculer les mouches, mais franchement, il y aurait tout un débat là-dessus qui me semble absolument fondamental. Et j'ai personnellement des points de vue assez précis sur la question. Je vois beaucoup de stagiaires qui sortent d'analyse de pratique.
Oui, mais bon.
En sachant pas trop ce qu'ils ont fait.
C'est en train de venir un savoir savant, l'analyse de pratique.
Je voulais juste donner des précisions par rapport à, au travail de la banque de séquences didactiques de Montpellier. J'ai participé à une des séquences et je pense que les limites qui sont de cet outil, elles sont importantes à préciser.
Bien sûr.
Ceci dit, le travail que nous devons faire tous sur la réflexion de l'utilisation des vidéos, il est quand même aussi en cours dans certaines équipes. Par exemple, sur l'IEFM de Montpellier, Serge Leblanc est un de ceux qui travaillent sur l'utilisation de la vidéo en formation. Et c'est vrai que c'est complexe, mais n'empêche que ça me paraît quand même un moyen puissant de faire rentrer la classe dans les séances de cours d'IEFM. Et actuellement, je pense pour beaucoup de collègues, le premier problème, c'est en effet la constitution de la banque. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Qu'est-ce qu'on va choisir comme séance? Est-ce qu'on va être sur des ratés, sur des réussites, sur des experts, sur des débutants? La planification, puisque maintenant, avec l'utilisation de ces outils, eh bien, il faudrait quand même savoir ce qu'on fait en PE1, en PE2, en T1, etc. Donc nous, ça fait partie maintenant de notre travail, de nous dire qu'est-ce qu'on garde finalement pour la formation continue, parce que si on reprend les mêmes outils parce qu'ils sont pas 150, eh bien, ça n'a plus aucune efficacité. Qu'est-ce qu'il y a comme document d'accompagnement pour que éventuellement ces vidéos elles puissent servir en autonomie, c'est-à-dire on les a présentées avant, ils vont les regarder, on va en rediscuter, enfin il y a toute une réflexion et je crois que...
Tu penses à des PE1, raconter une histoire à des petites sections ou des moyennes sections et lire une histoire des petites sections et des moyennes sections, quelle est la différence? Ils n'ont aucune idée. Tu prends 10 minutes de démarrage des deux situations, ah ben on peut discuter, ça y est.
Moi, c'était juste un témoignage, juste là-dessus. On a eu une commande institutionnelle avec les nouveaux programmes, enfin, les anciens nouveaux programmes, par l'inspecteur d'académie en 2004-2005, qui était de réaliser des vidéos sur ces nouveaux programmes. Et donc, on a eu chaque équipe de circonscription avec des formateurs, y compris de l'IUFM. On a eu une répartition des tâches. Et je vous donne des exemples de vidéos qui ont dû être faites. Un DVD, c'était lire, écrire, parler dans tous les domaines disciplinaires, la littérature de la
petite... C'était des vidéos de quelle durée?
Très variable. Chaque équipe décidait de la durée de ses vidéos, mais là où moi je m'en sers maintenant en formation initiale de ces vidéos. Alors juste une chose là-dessus, c'est que on avait pris le parti de ne pas trier ces vidéos, c'est-à-dire de pas donner un jugement sur. Moi, j'utilise celle qui s'appelle dire, lire, écrire dans les différents domaines disciplinaires. Il y a des séances qui ont été filmées qui, à certains moments, me font sourire. Mais
il ne faut pas dresser les cheveux sur la tête.
Chez moi, ils me font sourire chez moi. Ceci dit, pour éclairer un aspect particulier d'une pratique par rapport à ça, ça peut être intéressant. Et donc, je veux dire, on n'est pas forcément dans ces vidéos que sur de l'expertise.
Oui, absolument. Mais c'est ce qui fait que le ministère ne peut pas les diffuser. Moi, je me rappelle du gros travail qu'avait fait Viviane Bouys pour collecter un CD et où il y a eu effectivement un embargo en disant on ne peut pas donner à voir des séances qui ne soient pas des modèles, entre guillemets. Alors, bien sûr, mais bien sûr que oui. Alors, là-dessus... Mais des modèles pour le responsable du cabinet du ministre de cette année-là. Ça pose un vrai problème. C'est pour ça que, moi, il y a deux points. La perspective, c'est les 10 minutes, c'est-à-dire de penser pour des instruments très facilement utilisables en formation avec des présentations de situations différentes. C'est pas évident de le faire parce qu'on est plutôt sur, on veut avoir toute la séquence et ça dure 40 minutes. Puis alors, la deuxième chose, c'est penser qu'on va être beaucoup sur du fongible. C'est-à-dire qu'il y aura des banques qui se feront à l'intérieur de, qu'on pourra consulter par Internet et avoir, et celles-là, elles auront été faites par des professionnels. Mais il y a énormément de travail qui commence à se faire avec des binômes de PE2 qui se filment avec les caméras ou les téléphones portables sur des petites choses. Et en analyse de pratique, quand ils amènent ça, ça change énormément. Et ça, c'est du fongible. Et je dirais, c'est à usage interne. Je dirais que c'est comme du brouillon. Ça va être des nouveaux instruments d'écriture avec lesquels on n'est pas du tout habitué. Mais il faudra penser qu'il va falloir les intégrer. Et pourtant, moi, je suis née sous Gutenberg, donc je suis vraiment hors de ce monde-là. Mais je mesure à quel point ça va peser dans les années qui viennent sur les instruments de formation. Faut finir, faut boucler. Alors, une demande, c'est dans la suite de ce qu'on va mettre en ligne sur le site, on peut ajouter des documents qui seraient des exemples, même s'ils ne sont pas exemplaires, de dispositifs de formation initiale ou continue qui pourraient être utiles pour d'autres au titre des échanges professionnels. Ils sont signés, ce qui veut dire que si la personne qui le télécharge veut des explications de comment ça marche, elle peut adresser un mail à la personne qui a donné le document ou passer un coup de fil pour pouvoir avoir des explications, parce qu'ils sont pas forcément parlants d'eux-mêmes. Regardez le petit ce que nous a présenté Patrick, son PowerPoint. S'il n'y a pas les accompagnements de commentaires, c'est pas sûr qu'il soit aussi lisible qu'il a pu l'être.
Et encore, si c'était mon chef, c'était beaucoup mieux,
et on lui envoie tous nos vœux, puisque oui, bon, on sait que... Bon, ça c'est le premier point. Donc pensez-y pour l'actualisation du site. Sur le deuxième point, sur le point sur les méthodes et difficultés d'apprentissage de la lecture, il y aura une suite. On a vu qu'on n'a pas touché finalement à deux des problèmes dont j'aurais voulu qu'on avance davantage, c'était définir des règles de la déontologie de la vulgarisation, de la diffusion, de la médiatisation. C'est-à-dire qu'on y a touché, mais on n'a pas abouti à des conclusions. C'est à vous de les tirer ou de les faire. Le troisième point, c'est sur la réflexion qui est ouverte sur ce qui nous a mis en discussion ce matin, sur ce qu'on appelait les modalités d'articulation pratique-théorie. Je pense qu'une des choses que ce matin met bien en évidence, y compris dans l'intervention d'exemples de témoignages donnés par non seulement Sylvie Seb, mais aussi Sylvie Plane, c'est la nécessité de partir des analyses de situations vécues, représentées, connues, complexes, connues par les stagiaires. Alors, il y a eu des références à l'ergonomie du travail, à Frédéric Soja, à Yves Clos, etc. Je suis responsable encore pour un an de la recherche, de la revue qui s'appelle Recherche et Formation, qui est soi-disant une revue dédiée à ça. Je peux vous dire que j'apprends énormément, c'est bien de vieillir en s'instruisant. C'est en train de devenir une recherche savante à part entière. Et les articles sont strictement illisibles, ça veut dire ça. Hein. Ça veut dire que, au lieu de dire...
Faut continuer à croire. Encourageante, c'est ça qui est bien.
Alors, j'essaye de faire en sorte qu'elles deviennent lisibles.
Mais je croyais qu'il y avait eu un excellent séminaire sur le travail enseignant à l'INRP.
Mais il y a eu, ça n'empêche pas. Ça empêche que tout le monde, parlant du postulat d'éducabilité cognitive, au lieu de dire tout le monde s'améliore, et que l'altérité, la nécessité d'une posture d'altérité, au lieu de dire tout le monde voit midi à sa porte et faut essayer d'écouter les autres, comme disait ma grand-mère, je veux dire, c'est affreux. Voilà. Or, c'est ça la légitimité scientifique aujourd'hui. Donc, la question, c'est de savoir comment trouver... Le double discours, il faut être en patois, c'est-à-dire faut tenir dans certains lieux le discours de l'un et dans d'autres le discours de l'autre, en essayant de faire qu'il n'y ait pas de dégradation conceptuelle, mais de l'efficacité fonctionnelle. Donc là-dessus, pensez que du point de vue de l'avenir, de cette réflexion sur les situations professionnelles, ce qui rend le plus service, c'est les exemples. C'est à partir des situations, on peut faire toutes les après, les... élaboration théorique qu'on veut, si on a le référent de la situation, on sait de quoi on parle, et le cas échéant, si ce qu'on dit est pas trop faux, sinon vrai. Donc, allez aussi dans ce sens-là. Et puis, j'arrête là. Merci pour votre patience. Et c'était très agréable.